Sud Radio, l'œil de l'expert.
L'œil de l'expert ce matin, l'expert c'est Pierre Verdrager. Je vous ai pas demandé comment se prononçait votre nom. Merci d'être avec nous en studio sur Sud Radio. Le grand renversement, pédophilie, comprendre l'affaire Matzneff, et pédocriminalité. Comment on est arrivé là? Ça vient de paraître chez Armand Collin. C'est tout à fait passionnant. C'est une version condensée d'un livre que vous aviez publié il y a un certain temps, L'enfant interdit. Vous vous intéressez à cette question de la pédophilie, de la pédocriminalité, pardon, depuis un certain temps. Et puis, il y a eu le livre de Vanessa Springora, il y a eu le livre de Camille Kouchner. Et à partir de là, les choses ont changé. Je vais vous laisser la parole. On a vu ce déferlement de hashtag MeToo inceste. Et même vous, vous avez été surpris par l'ampleur des gens qui ont témoigné.
Alors, le fait que la pédophilie, ou ce qu'on appelle aujourd'hui pédocriminalité, ait été abandonnée comme cause défendable politiquement, avec des militants et tout ça, ça a été abandonné avant Vanessa Springora. C'est une cause qui a été abandonnée complètement à la fin des années 80, au milieu des années 90.
Vous vous rapprochiez du micro.
Au milieu des années 90. Ouais. Donc, mais le fait que un personnage comme Matzneff continue d'exister, continue d'être valorisé dans la presse,
aussi soutenu,
oui, on peut dire à droite comme à gauche, hein, du Figaro aux lettres françaises, donc le journal communiste, montre qu'il y avait quand même quelque chose qui demeurait. Et quand le livre de Vanessa Springora a paru, moi, quand je ne l'avais pas lu, on m'a contacté, le journaliste m'a contacté pour dire, voilà, il y a un livre de Vanessa Springora qui va paraître, qui va décrire l'expérience qu'elle a eue avec Matzneff, je me suis aussitôt dit que ça allait sans doute être un tournant important, sans avoir lu le livre, parce que c'était la première fois qu'une personne victime de Matzneff prenait la parole dans l'espace public avec un livre pour raconter autre chose que la version de Matzneff, donc qui était une version toujours extrêmement
enjolivée de la réalité.
Et donc là, on allait avoir l'autre son de cloche, donc ça a été un mouvement extrêmement fort. Je pensais que ça allait être quelque chose de puissant. Non, pas à ce point-là. J'ai pas du tout imaginé que, par exemple, Gallimard lâcherait Matzneff.
Ouais.
Et Gallimard et ensuite les autres éditeurs, notamment Léo Cher.
Ouais.
J'ai pas du tout imaginé que quelque chose comme ça pourrait se produire, que Gallimard rappellerait les ouvrages, arrêterait de commercialiser les journaux, parce que les fictions sont encore commercialisées. Mais pas les journaux.
Ouais.
Et j'ai pas du tout anticipé qu'il allait avoir un succès absolument énorme de ce livre, avec des traductions dans le monde entier, des invitations absolument partout. Vanessa Springora, personne ne la connaissait. Elle était connue dans le monde de l'édition, bien sûr, parce qu'elle a acquis une position aux éditions Julliard à peu près simultanément, puisqu'elle est directrice des éditions Julliard. Mais si vous voulez, dans le grand public, on ne la connaissait pas. Et elle est presque du jour au lendemain devenue mondialement célèbre. Et c'est ça qui est intéressant, parce que on pourrait se dire c'est un événement germano-pratin, Matzneff, etc.
Un 4+.
Et en fait, on a été démenti par ce qui s'est produit, dans la mesure où le livre a été acheté dans le monde entier. Ça passionne l'Allemagne, ça passionne les États-Unis. En Amérique du Sud, on parle d'une révolution Springora dans la presse.
Et qu'est-ce qui fait que ça a été cette révolution? Est-ce que c'était le moment, c'était le bon moment? Parce que Matzneff, il vivait librement. On a revu et re-revu ces images d'apostrophe. Tout le monde savait. Et ce discours enjolivé, certains l'entendaient, d'autres pas, comme Denise Bombardier, qui à l'époque avait vertement réagi. Mais il y a eu un basculement quand même assez incroyable.
Oui, alors, je vous dis que la critique de la pédophilie et de la pédocriminalité, c'est peut-être pas de Vanessa Springora,
bien sûr.
Il y a eu une énorme montée en puissance des associations de protection de l'enfance.
Ce que vous racontez dans le livre, et puis les féministes qui ont joué
un rôle très important. Et donc, si vous voulez, tout ça, ça se construit dans le temps. Il faut du temps pour que ça se passe. Et je pense que dans le domaine de la littérature et de la création en général, je dis souvent que le meilleur moyen d'avoir de la singularité, c'est de faire référence à la pédophilie, puisque c'est la chose la plus singulière qui soit. Et d'ailleurs, je fais un raccourci par rapport à ce qui s'est passé très récemment, qui est à mon avis extrêmement intéressant, dans l'affaire Claude Lévesque, donc, qui est mis en cause.
Qui est un artiste très connu.
qui a eu beaucoup d'achats publics aussi et qui a été mis en cause donc, dans une affaire de pédophilie. Il est donc présumé innocent, je oui, pense, en tant que rappeler. Tel. Mais si vous voulez, il a été défendu par Art Press et donc sa directrice Catherine Millet avec une lettre pour le défendre au nom de la présomption d'innocence. Mais pour moi, c'est très caractéristique du fait que c'est dans les univers de création où la singularité est la boussole d'orientation de l'action qu'on peut encore trouver des gens qui défendent des pédophiles présumés, en tout cas. Voilà. Et donc, dans le monde de la littérature, je reviens au Kamazov, ce qui est très intéressant, c'est que il y a eu une bienveillance assez collective, en tout cas dans les univers de création, de droite à gauche. C'est pas du tout.
Oui, parce que vous avez pointé à un moment la responsabilité de la droite et de l'extrême droite.
Tout à fait. Oui, parce qu'il y a une idée souvent colportée que
c'est toujours mai 68, Guy Hoogenkamp, Libération.
Et alors c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas vrai uniquement pour la gauche. C'est tout à fait faux de penser que ces phénomènes-là se réduisent à des phénomènes de gauche. Il y a aussi une extrême droite pro-pédophile qui a défendu des thèses comme ça, avec évidemment sa propre patte. À gauche, on défend plus l'égalité, la symétrie entre l'enfant et l'adulte. Tout adulte a une âme d'enfant, tout enfant est une personne, donc on se retrouve avec quelque chose d'égalitaire. À droite, on va privilégier plutôt la pédagogie, la symétrie, l'apostrophe, avec un écart qui est valorisé, avec des valeurs qui sont complètement différentes de la gauche. Mais, si vous voulez, si les modes de valorisation ou de la défense de la pédophilie sont complètement différents, les gens se retrouvent dans l'idée que la pédophilie
c'est
est défendable.
C'est acceptable. Mais comment c'est possible ? Comment est-ce que, psychologiquement, à une époque, dans les années 70-80, il y avait des militants pédophiles, il y avait cette idée que ça pouvait être normal ?
Il y avait cette idée que ça pouvait être normal parce qu'on pensait que la pédophilie faisait partie d'une série de causes qui étaient mises en équivalence. Alors c'était évidemment pris dans le cadre de la libération du corps, dans le cadre des luttes d'émancipation du corps. Dans les années 80, bien sûr, il y a eu l'alignement des majorités sexuelles entre homo et hétérosexuels et beaucoup d'acteurs pensaient à cette époque-là que c'était une étape qui allait intervenir. Et que l'étape suivante, ce serait soit la diminution de l'âge de la majorité sexuelle, 14 ans, 13 ans, etc., soit la disparition totale de la notion même de majorité sexuelle, puisque certains considéraient, à l'époque, comme Foucault, que la notion de majorité sexuelle était idiote et qu'il fallait s'en tenir au consentement de l'enfant. Et que donc, l'idée d'un consentement d'un enfant était quelque chose de possible. Avec à la clé, l'idée aussi que la sexualité ne pouvait pas être en elle-même une violence. Il y avait cette incompréhension du fait que la sexualité pouvait être en elle-même du violence à partir du moment où ça impliquait des enfants. On parlait à l'époque d'un rejet du viol, au moins pour certains des acteurs en présence, mais on disait que ce viol devait être écarté, mais pour ce qu'il en était des actions non violentes, entre guillemets, il n'y avait pas de problème. Et donc là, il y avait vraiment un impensé du fait qu'une sexualité imposée à un enfant pouvait être en elle-même une violence sans la nécessité de coups.
Et il y a le livre de Camille Kouchner qui là aussi a été une déflagration et on voit quand même qu'il y a une condamnation unanime de ce qui s'est passé. Est-ce que vous diriez que c'est le pire crime qui soit la pédophilie ?
C'est pas à moi d'en juger, le fait d'évaluer...
Mais on voit que la société, en tout cas aujourd'hui, le condamne. Certains disent qu'on rentre dans une époque puritaine, dans une époque de politiquement correct. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors moi, moi je suis sociologue, donc j'essaie d'objectiver les choses sans prendre parti.
Mais vous voyez l'évolution de la société. Oui. Donc est-ce qu'on est dans une société qui, aujourd'hui, alors est-ce que c'est un bien ? Est-ce que c'est on est tenté de dire oui, mais...
Alors moi, je suis tenté de dire que c'est une forme d'émancipation dans la mesure où je pense que dans cet événement-là et dans ce processus-là, la société se met du côté des dominés, c'est-à-dire des gens... des enfants en l'occurrence, et qui n'ont pas nécessairement la parole, qui ne sont pas à même de se défendre. Et je crois que c'est quelque chose d'émancipateur dans la mesure où on défend la vulnérabilité. Et le fait que la société bascule dans une défense des êtres vulnérables, j'ai du mal à penser que ça peut être quelque chose de considéré comme puritain ou conservateur ou réactionnaire ou rétrograde.
Comment vous, vous comprenez qu'il n'y ait pas de crime de pédophilie en tant que tel dans la loi? Et est-ce que ça va changer? Est-ce que justement ce qui est en train de se passer va amener peut-être à qualifier de façon un petit peu plus précise, parce que c'était une circonstance aggravante, mais pas un crime en tant que tel? Donc qu'est-ce qui va changer à votre avis d'un point de vue légal?
Alors ce qui est en préparation au niveau de l'État, c'est le fait de créer un nouveau crime qui serait le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, ce qui voudrait dire que par définition, la relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans serait un crime automatiquement, hein, ce qui est déjà interdit, hein, puisque c'est une atteinte sexuelle, à partir du moment où c'est interdit d'avoir une relation sexuelle entre un majeur avec un enfant de moins de 15 ans, c'est déjà interdit, mais la chose serait aggravée. Alors ça, c'est une des solutions qui avait été privilégiée par le juge Rosenfeld. Mmh. Rosenfeld, par exemple, c'est quelqu'un qui défendait cette idée-là. Et pourquoi il défendait cette idée-là? Parce qu'il considérait que discuter du consentement, c'était très compliqué quand on était un enfant, et que si on s'embarquait dans une modification de la question du consentement ou de la prise en charge de cette question-là, on allait s'égarer. Et que la prise en compte de ce fait le conduisait à défendre l'idée de la création d'un nouveau crime. Donc on verra, c'est en discussion. Le gouvernement a pris parti pour cette option-là, semble-t-il. On va voir ce que ça va donner.
C'est tout à fait passionnant. Je conseille vraiment votre livre parce que c'est toute la chronologie, encore une fois, l'histoire de cette pédocriminalité, les années 70, comment on en est arrivé là, les féministes, l'affaire Dutroux aussi qui a été importante. Ça s'appelle Le Grand Renversement et c'est paru chez Armand Collin. Merci Pierre Verdraget d'être venu ce matin sur Sud Radio. À suivre les débats. À tout de suite.
Réagissez maintenant. Sud Radio 0826 300 300.